méditer avec vous. Alors, je m'appuierai essentiellement sur le PowerPoint que j'ai préparé. Je sors d'une semaine de congé où j'ai mis un point d'honneur à ne pas trop travailler. Et donc, j'ai couché ici quelques points clés de ce que je voudrais simplement partager avec vous ce matin. Ce que le Seigneur ou ce que l'Éternel attend de toi. Alors, ce n'est pas moi qui vais dire ce que l'Éternel attend de toi. Je n'ai pas cette prétention-là, ce qu'il attend de nous. Je reprends simplement dans ce titre une expression de Michée chapitre 6 que nous allons lire. En particulier, nous lirons les versets 6 à 8. Alors, je vous invite à cette lecture. Je lis ici dans une version qui est la nouvelle version Bible du Semeur. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel ? Et avec quoi m'inclinerais-je devant le Dieu d'en haut ? Irais-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an ? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile ? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute ? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Le prophète Michée a reçu sa vocation et a prophétisé dans les deux royaumes divisés autant au nord qu'au sud. C'est d'ailleurs le seul qui parle à la fois à Israël et à Juda parmi les prophètes. Dans la première moitié du 8e siècle avant Jésus. Et dans ses prophéties, Michée, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », porte au cœur d'un peuple marqué par une déchéance morale, spirituelle, un délitement aussi du lien social, marqué par l'avidité d'un certain nombre de dirigeants qui provoquent des injustices, des balances faussées, des pots de vin, la corruption. En fait, le tableau est triste. Et nous nous étions séparés dans le cadre du culte de Noël avec une lecture d'ailleurs de Michée chapitre 5, annonçant dans ce tableau triste, au-delà du jugement de Dieu, que le Seigneur livrera son peuple, mais qu'il susciterait aussi un serviteur, un sauveur, un libérateur. La jeune fille sera enceinte. Vous vous souvenez, Michée chapitre 5, c'est un et suivant. Et toi, Ephata, tu n'es pas la moindre. Eh bien, ici, au chapitre 6, le prophète Michée donne à entendre le réquisitoire que Dieu dresse contre son peuple. Son peuple qui se montre bien ingrat et oublieux de la fidélité constante du Seigneur. Alors il est invité à plaider, à venir comme devant un procès et à plaider avec Dieu. Et le prophète semble avoir éveillé dans la pensée, dans le cœur du peuple, le sentiment de sa culpabilité, de sa faute. Et on a comme un début de prise de conscience avec les versets qui ont précédé le verset 8. On pourrait dire, les uns et les autres commencent à se dire, ah ben alors, que faire pour attraper le coup ? Comment être agréable à Dieu ? Qu'est-ce que le Seigneur attend vraiment de nous ? Alors bien sûr, ils cherchent d'abord les réponses dans ce qu'ils connaissent, dans un certain nombre de rituels qui étaient institués dans la loi mosaïque. Tous ces rites sacrificiels, devrais-je me présenter avec des animaux, des veaux ? Et puis, l'auteur nous donne même, peut-être là, des verbatims peut-être entendus parmi ces coreligionnaires. Devrais-je alors offrir même mon fils premier-né? Vous savez que c'était presque de droit divin que l'enfant premier-né, le fils premier-né, était à l'Éternel. Jusqu'où devrais-je manifester à Dieu ma prise de conscience de ma culpabilité pour qu'il me soit à nouveau agréable, favorable? Et en fait, la première partie de ces versets essaye un peu de nous rendre compte de cette problématique de comment être agréable à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et cela a été souligné dans les pensées qui nous ont été partagées, que le Seigneur n'attend pas de nous que nous nous inscrivions dans une logique sacrificielle. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous inscrivions dans un formalisme religieux qui consisterait simplement à faire quelque chose de l'extérieur pour lui être agréable. Il nous vient alors à la pensée à ce verset du prophète Ésaïe, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, que le Christ d'ailleurs reprendra. » Mais comment être agréable à Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur attend vraiment de moi? Nous allons vraiment faire un focus sur ce verset 8 qui vient de nous être partagé, je crois, par Enzo, dans les pensées que le Seigneur inspirait en son cœur. On te l'a enseigné, ô homme. Homme-femme, hein, c'est ici l'appellation générique dans le texte hébreu même, c'est Adam, tout simplement. Donc, être humain, ô toi, être humain. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Première chose que j'entends en ce verset, c'est d'abord attention. Dieu ne joue pas aux devinettes. Nous n'avons pas en permanence à essayer de deviner ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Jeune chrétien, ayant grandi au Cameroun, souvent, on nous enseignait à mettre des toisons. Je sais que ce n'est pas resté au Cameroun, je sais que cette pratique est aussi ici. Et d'ailleurs, je crois avoir déjà eu des discussions avec quelques-uns à propos de ça. Je ne voudrais donc pas, on va dire, pointer du doigt cette pratique-là. Mais alors, il me semble que si c'est notre mode de discernement de comment Dieu veut nous parler principal, attention, on prend quelques risques. Et il me semble que l'Écriture, d'ailleurs, nous montre par un certain nombre d'exemples que ce n'est pas comme ça que Dieu veut vraiment beaucoup, souvent nous parler, de manière générale. Je me souviens d'une période où, voulant discerner des conjoints, des personnes qui aspiraient au mariage, je disais, Dieu m'a dit que. Dieu m'a montré que. Vous savez, dans nos églises où on encourage justement cette spontanéité, ce caractère presque immédiat, cet accès presque immédiat à Dieu, où on se méfie de tout ce qui pourrait être médiation, alors on dit toujours comme ça, Dieu m'a dit que. Alors une sœur avait prié, semble-t-il, c'est une anecdote, en disant, mais Seigneur, ce matin je vais aller au culte très tôt et je pose une toison. La personne qui s'assiera à mes côtés, c'est lui. Wow. Et c'était exactement la personne qu'elle ne voulait pas. Et donc les toisons, c'est parfois quand ça nous arrange. C'est nous qui les posons et c'est nous qui les déplaçons, un peu comme dans cette histoire biblique, fait que l'ombre avance, fait que l'ombre recule, fait finalement, voilà. Dieu ne joue pas aux devinettes avec nous. Notre Dieu est un Dieu qui a lui-même pris l'initiative de se faire connaître. Il est le Dieu de la révélation. Il est le Dieu du dévoilement. Certes, nous ne pouvons pas le connaître dans sa totalité, mais ce qu'il a voulu nous faire connaître nous est donné comme un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se fait proche, nous disait notre frère Valentin il y a quelques semaines. Je n'ai pas écouté la prédication encore de Loïc, je m'en excuse, le fichier n'a pas... j'ai oublié, j'ai été en retard pour le télécharger, donc j'écouterai en cette semaine. Donc, je ne sais pas ce que tu as dit, Loïc, la semaine dernière. Je réfère donc à la prédication d'avant. Notre frère Valentin nous rappelait combien ce Dieu est proche. Il est venu parmi nous. Il veut se faire connaître de nous. Et moi, je pense que l'Écriture nous montre qu'il veut surtout se faire connaître de nous par sa parole. Cette parole biblique, cette parole normée qui est déjà là. Et cette parole vivifiée par son Esprit Saint, qui renouvelle notre intelligence et qui nous donne de recevoir, en tout cas de nous rapprocher de ce que nous pensons qu'il a voulu dire. Notre Dieu veut nous faire connaître sa volonté de manière générale. Il y a beaucoup de choses de nos vies où nous n'avons pas besoin de chercher. Seigneur, comment je dois m'habiller ce matin ? Seigneur, quel genre de voiture voudrais-tu que j'achète ? Il me semble que Dieu ne nous infantilise pas à ce point parce qu'il nous aime, parce qu'il nous appelle à exercer notre responsabilité et engager avec lui véritablement une relation d'amour, de confiance. Nous imaginons pas un Dieu qui serait en quelque sorte un Dieu qui brouille les pistes, un Dieu qui ne voudrait pas qu'on sache vraiment. Ce serait une image, à mon sens, perverse, dévoyée de qui est vraiment Dieu. Notre Dieu nous dit aussi dans sa parole, et l'Écriture nous dit, que ce que Dieu veut est tov. Ce que Dieu veut est le bien absolu, le bien parfait. Tov, c'est le bien. Tov, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable. Et donc, Michel commence peut-être par poser ça auprès de ses co-religionnaires. Il ne s'agit pas d'inventer par nous-mêmes ce que Dieu voudrait et lui proposer plusieurs choses. Je fais ceci, je fais cela, je fais... Peut-être il se trouve que quelque chose lui serait agréable. Non. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une sorte de formalisme religieux. Mais il s'agit de prêter attention à ce que Dieu a déjà dit. Parce que notre Dieu, figurez-vous, a parlé. Et voilà pourquoi le prophète Michée dit: on t'a enseigné, ô homme, ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi. Alors, je vais reprendre tout simplement la structure de ce verset. Trois membres dans ce verset qu'il ne faut pas voir comme étant vraiment séparés. Tout ça va ensemble, j'espère que cela sera clair dans mon propos. Premièrement, que tu pratiques la justice. Le mot ici pour justice qui est utilisé par Michée en hébreu, c'est mishpat. Que tu pratiques la mishpat. Un terme qui revient. Regardez plus de deux occurrences dans l'Ancien Testament. C'est un nombre de commentateurs de la grammaire hébraïque nous disent que le sens fondamental de ce terme, c'est l'idée de défendre les droits des personnes ou de traiter les gens avec équité. Dans un commentaire de Timothée Keller, il dit « Pratiquer la mishpat, c'est donner aux gens ce qui leur revient. » Donner aux gens ce qui leur revient. Être juste. Alors que ce soit un châtiment, une protection ou des soins, c'est donner aux gens ce qui leur revient. Pourquoi Dieu nous appelle à pratiquer, c'est-à-dire à être dans un agir positif qui pointe vers cette justice, vers cette mishpat? Eh bien, parce que notre Dieu est un Dieu lui-même de justice. La justice reflète qui Dieu est. Au psaume 146, nous pouvons noter combien Dieu se présente ici comme un Dieu juste. Il nous a dit, c'est la slide suivante, qu'il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. La mishpat leur est souvent associée. Pratiquer la justice nous engage. Pratiquer la justice nous engage à prendre soin de ceux d'entre nos frères et sœurs qui sont les plus vulnérables. Et dans le corpus des textes que Dieu a donné à son peuple, on trouve beaucoup de recommandations autour de cette attention aux autres, et en particulier aux plus vulnérables. Pratiquer la justice, c'est cultiver l'équité, c'est cultiver des relations justes, c'est casser les logiques de discrimination, c'est casser les logiques d'abus en tout genre. Pratiquer la justice, c'est vouloir ce que Dieu veut, vouloir le bien, vouloir ce qui est juste tel que Dieu le veut dans nos relations sociales. Pratiquer la justice, c'est cultiver la miséricorde et le partage. Que tu pratiques la justice, premier terme de l'exhortation de Michée. Que tu aimes la miséricorde. On pourrait lire ici comme deux sous-thèmes, mais en réalité, les deux sont liés. Pratiquer la justice dit mon agir concret, l'axe que je pose. Aimer la miséricorde dit en quelque sorte la motivation qui fonde, qui pousse en dynamique cet agir que Dieu demande de moi. Donc c'est le deuxième point. Que tu aimes la bonté ou la miséricorde, en hébreu ici, recède. Un terme qui revient aussi à plus de 250 occurrences et qu'on traduit diversement suivant les contextes d'ailleurs. Bonté, bienveillance, miséricorde, faveur, grâce. Et souvent, on retrouve son emploi au sujet de Dieu pour parler de la bonté de Dieu, pour parler de la bienveillance de Dieu, pour parler de la miséricorde de Dieu. Il me vient alors à l'esprit, moi je préparais la prédication, ce passage d'Exode 34, vous savez, lorsque le Seigneur, on est en Exode 20, au Sinaï, le don des 10 paroles, et puis il y a l'épisode du veau d'or, et Moïse très en colère, va casser les tables de la loi, et le Seigneur va venir, et il va passer devant Moïse, qui est un peu caché dans le creux du rocher, et il va avoir cette proclamation, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de recède, et de grâce. Lent à se mettre en colère et riche en recède, en amour, même mot, et en fidélité. Pratiquer la justice en étant touché, rejoint dans nos entrailles, dans ce qui nous agit de l'intérieur par les entrailles de Dieu lui-même. Des entrailles de grâce, de miséricorde. L'Église comme communauté de la justice ne peut l'être que parce qu'elle est d'abord, en Jésus-Christ, communauté de la grâce, communauté de la compassion. Communauté de la miséricorde. Sinon alors, la justice sociale n'est qu'un programme, n'est qu'une action, et peut-être même n'est plus qu'une simple morale sociale. Or, il me semble que du point de vue de l'Écriture, elle est l'expression de l'amour et des compassions et de la miséricorde du Dieu de justice pour relever le faible, pour faire justice aux opprimés. Dieu ne sépare pas justice et miséricorde. Et d'ailleurs, le prophète Michée lui-même l'a bien compris. En dépit de toutes les reproches que Dieu, à juste titre, fait à son peuple infidèle, le prophète sait que la miséricorde n'abandonnera pas le Seigneur. Et voilà pourquoi au chapitre 7, c'est-à-dire quelques versets plus loin, versets 18 à 19, il écrit ceci, en reprenant presque son nom, c'est-à-dire Michée qui est comme Dieu. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. On dirait que Michée se souvient lui aussi de ce que Dieu a dit à Moïse. Lent à la colère, riche en bonté. Moïse, qui était un homme extrêmement patient, la Bible nous dit le plus patient d'entre les hommes. Mais il était arrivé à un point de rupture là. Il avait vraiment laissé éclater une grosse colère. Et Dieu est venu non pas pour l'accabler, mais pour lui dire, écoute Moïse, je peux pardonner ça. Je peux pardonner ça. Je peux passer et couvrir ce péché. Parce que je suis un Dieu riche en bonté et en miséricorde, en grâce. Et au verset 19, il dit, oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer. C'est une image pratiquement de l'Exode, du premier Exode. Là, Michée voit un second Exode. Quand le peuple reviendra de son exil douloureux, ça sera comme alors au premier, la sortie d'Égypte, où Dieu avait jeté en quelque sorte les ennemis, Pharaon, ses cavaliers, dans la mer. Et là, c'est les ennemis, c'est le péché. Tu piétineras nos péchés, nos fautes, et tu les jetteras au fond de la mer. Tu jetteras toutes nos fautes. Pourquoi il fera ça? Pas parce qu'on a tout compris. Pas parce qu'il a bien mangé les veaux et les maigres des sacrifices et des holocaustes. Seulement à cause de sa miséricorde. Seulement par amour. Que tu marches humblement devant ton Dieu. Troisième membre de cette exhortation de Michée. Pratiquer la justice en étant motivé par les sentiments qui sont faits par la compassion qui est celle de Dieu, notre Père, traduit concrètement finalement ce que Michée appelle ici marcher humblement devant ton Dieu. J'entends ici au moins trois choses. Comme chrétien, je suis un pèlerin qui ne marche pas d'une manière quelconque. Je ne marche pas sans savoir pourquoi je marche. Je ne marche pas sans savoir où je vais, sans cap. Je ne suis pas dans une errance ici-bas. Il y a un sens à pourquoi je suis là. Il y a un sens à pourquoi nous sommes appelés à marcher. Nous sommes comme John Bunyan, un fameux baptiste, avait écrit le voyage du pèlerin avec Fidel. Qui est une sorte de pèlerinage à travers le monde vers la cité céleste. Et ce pèlerinage va être une sorte de parcours d'initiation finalement à la vie chrétienne et à la marche selon Dieu, avec ses hauts, ses bas, ses crises, ses détours, ses chutes, ses relèvements. Mais le chrétien ne marche pas d'une manière quelconque. Ce pèlerin ne marche pas à la manière de l'homme naturel livré à lui-même, pour reprendre un peu là une catégorie de la pensée de l'apôtre Paul. Il ne marche plus en étant sa propre norme. Il ne marche plus en décidant pour lui-même d'être au centre de sa vie. Mais un changement important est survenu. La reconnaissance de la seigneurie de Dieu, des droits de Dieu sur sa vie. La reconnaissance du chemin bon de Dieu. La reconnaissance de ce que Dieu est celui qui pose le critère de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui lui est agréable. Alors la marche chrétienne, qui est une figure métaphorique ici, qui évoque la vie chrétienne et la conduite chrétienne, devient non pas un programme d'activité, non pas simplement une sorte de répétition dimanche après dimanche, semaine après semaine dans nos groupes de maison, mais elle devient vraiment une suivance des voies du Seigneur. Il s'agit pour nous de continuer d'avancer sur ce sentier sûr que ceux qui nous ont précédés, que les prophètes, que les apôtres, par l'Écriture, ont balisé. Et il s'agit tout simplement de mettre, jour après jour, humblement, simplement, nos pas dans les empreintes laissées par ceux qui nous ont précédés, sans que nous n'inventions le chemin par nous-mêmes. Cette marche se fait alors sous la guidance de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, qui confirme la parole de Dieu en nos cœurs et qui nous soutient pour que nous puissions marcher humblement avec notre Dieu. Je ne peux pas commenter ce petit passage sans faire un petit parallèle avec le psaume premier. Le livre des psaumes, le psautier, 150 chapitres, s'ouvre justement par cette analogie entre la marche et la vie du chrétien comme pèlerin appelé à marcher en disciple sur, non pas ses propres voies, mais sur les voies de Dieu. Et vous connaissez le texte. Je me rends compte que j'ai inversé les slides, alors il va falloir avancer et revenir en arrière. Merci. Heureux l'homme, la femme, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Cette marche implique des renoncements. Cette marche implique un certain non-conformisme, une capacité à aller à contre-courant de ce que Dieu ne veut pas, de ce que Dieu n'aime pas. Et aujourd'hui, dans une société qu'on dit complètement sécularisée, postmoderne, où les références au christianisme sont de plus en plus balayées, en fait, être conformiste aujourd'hui, c'est tout simplement de faire sa vie comme bon lui semble et de dire, moi Dieu, je n'en ai que faire. C'est les chrétiens, du coup, qui se retrouvent du côté du, j'ai envie de dire, des non-conformistes. En disant, mais moi, j'ai choisi d'aller à contre-courant. J'ai choisi d'être dans les rangs de cette minorité qui croit encore que Dieu peut être dans la cité et au centre de la cité. Que la cité des hommes n'est pas une cité contre Dieu. Que la cité des hommes est pour Dieu. Qui refuse cette volonté de complètement séparer cité des hommes et cité de Dieu. Mais qui accepte le principe d'organiser les deux dans une articulation qui soit équilibrée. C'est un peu ça que la laïcité à laquelle nous tenons, nous aussi, à chercher à faire. Même si dans son application, aujourd'hui, on peut parfois avoir le sentiment qu'il s'agit de dire la cité des hommes n'est pas la cité de Dieu et Dieu doit chercher sa cité en dehors des hommes. Mais je crois que nous pouvons dire que la cité des hommes, le monde dans lequel nous vivons, la ville dans laquelle Dieu nous a implantés, elle est aussi la cité de Dieu. Elle est aussi un lieu où nous vivons sous le regard de Dieu, son regard de grâce. Elle est aussi un lieu où Dieu veut bénir, où Dieu veut rencontrer les réalités sociales et sociétales que nous rencontrons, où Dieu veut nous accompagner, où Dieu veut accompagner son humanité. À nous d'avoir le courage, la pertinence, là aussi, de savoir quand est-ce qu'il faut aller à contre-courant. Quand est-ce qu'il faut dire, non, je ne marche pas sur ce chemin-là. Un chemin de moqueur, un chemin d'injustice, un chemin de corruption, un chemin d'infidélité. Mais je veux mettre ma joie à marcher. C'est les versets 2, dont on revient un peu en arrière, selon la parole du Seigneur. Il met toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, qu'il médite jour et nuit. S'approprier la parole de Dieu, année après année, encore et encore cette année 2025. Approfondir sa compréhension, la ruminer. La méditation n'est rien d'autre que cette rumination, en quelque sorte, constante de la parole de Dieu. Pour mieux la digérer. Une telle personne prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison et son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit et la suite contraste. La suite, c'est la perte des méchants. Mais pour celles et ceux qui ont pour boussole la parole de l'Éternel, qui ont pour boussole ce qui est sur le cœur du Père, alors il y a une promesse. Ce n'est pas qu'ils ne connaîtront pas des galères. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais c'est qu'ils seront enracinés, vivifiés, secourus. Ils porteront du fruit. Je me suis réveillé le premier, après avoir dormi quelques heures, puisque nous avons réveillé ici le 31, avec une nouvelle terrible. On venait de m'appeler, et je dormais encore, pour m'annoncer qu'un de mes cousins ici à Paris, 56 ans, était décédé le 1er janvier. Vous voyez, 2025 a commencé pour moi par un deuil. J'attends le programme des obsèques. Un deuil vraiment terrible, douloureux. Donc il y aura des épreuves encore en 2025. Donc il y aura encore des difficultés à traverser, à vivre. Mais celui qui se confie en l'Éternel trouvera aussi par lui le soutien, la consolation. J'ose même dire sa joie, comme le texte le dit. Alors j'aimerais conclure. J'avais fait mention du Christ avec Michée chapitre 5, cette annonce-là. Et je n'ai pas parlé beaucoup de Jésus-Christ. Mais je voudrais ici évoquer rapidement ce que le Christ lui-même dit et la façon dont son ministère a articulé justice et miséricorde, justice et compassion. Vous savez, dans Luc chapitre 4, il reprend le programme du serviteur de l'Éternel annoncé par Isaïe. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, hein, pour redonner la vue aux aveugles, etc. C'est la mishpat et la recette qu'il vient manifester. Et alors, les pharisiens, un jour, essayent de lui tendre un piège en lui disant, mais quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qui compte le plus sur le cœur du Père? Et Jésus va résumer la loi et les prophètes en ces quelques paroles. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On pourrait, en résumé, dire que le verset, l'exhortation de Michée, chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel, ton Dieu, attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On pourrait dire que c'est un résumé des 10 paroles. Pratiquer la justice et aimer la miséricorde pourrait être le résumé de la deuxième table. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui est surprenant, c'est que Michée commence dans cet ordre-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il commence par cette horizontalité. Mais il sait très bien qu'elle ne va pas. La deuxième table ne va pas sans la première. Et la dernière recommandation, marcher humblement devant ton Dieu, serait le résumé de la première table. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ton prochain comme toi-même. Alors ce que le Seigneur attend de nous, que nous pratiquions la justice, que nous aimions la bonté, la miséricorde, que nous marchions humblement devant sa face. C'est peut-être avec ce résumé que je vais vous souhaiter, à mon tour encore une bonne année 2025, que le Seigneur nous accompagne dans ce beau programme, en quelque sorte, qu'il nous donne lui-même à travers sa parole, tous nos meilleurs voeux de santé, nos meilleurs voeux aussi de persévérance dans ce chemin à la suite de notre Seigneur.